Aujourd'hui, nous allons parler avec Pierre Bétain des... Il va nous parler, parce que ça, je crois que pour la plupart, nous en serions bien incapables. Il va nous parler des composites thermostructuraux. Alors, Pierre Bétain est né en 1936, il est polytechnicien. Son parcours, c'est un parcours d'ingénieur général de l'armement et d'ingénieur d'abord, puis ensuite d'animateur et de directeur de sociétés liées à la propulsion. Je donne son parcours rapidement. Il a été d'abord ingénieur militaire des poudres. De 1969 à 1997, sa carrière s'est déroulée à la société européenne de propulsion. Vous voyez que c'est son sujet principal, où il a été tour à tour ingénieur, directeur technique et industriel, directeur général adjoint et directeur général délégué de la Société européenne de propulsion. Et puis, à partir de 1997, quand il y a eu fusion de la SEP et de la SNECMA, il est devenu directeur général adjoint de la SNECMA. Donc ça, son monde, son activité professionnelle et son monde, c'est la propulsion depuis plus de 40 années, de la propulsion à poudre depuis l'origine, à la propulsion à liquide depuis 1984, et de la propulsion, bien sûr, dans tout ça, la propulsion aéronautique et pas seulement balistique. Donc il est un des spécialistes internationaux des matériaux, de la propulsion et des matériaux composites. Il a reçu de nombreux prix, bien sûr, et membre de nombreuses associations liées à l'astronautique, à l'aéronautique et à la propulsion. Je vais lui passer la parole pour une cinquantaine de minutes, et puis ensuite, nous pourrons lui poser nos questions. Merci.
Bien, merci, Monsieur le Président, d'avoir dévoilé mon âge. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Vous l'avez compris, je ne suis pas un chercheur et encore moins un enseignant. Et pourtant, j'ose venir devant vous, ceci pour deux raisons. Je fais partie de ceux, et ils sont nombreux dans l'industrie, qui apprécient et soutiennent cette merveilleuse initiative qu'est l'Université de tous les savoirs. Et puis, comme j'ai la passion des composites, et que je le montre, mes amis ont pensé que j'arriverais à vous la faire partager. Ils m'ont demandé en quelque sorte de prêcher ici un dimanche matin. Alors j'espère que l'enthousiasme que l'on veut bien me reconnaître suppléera pour partie un manque de pédagogie qui, je mesure tout particulièrement ce matin. Merci d'avance de votre indulgence. Pour ce qui sera bien sûr plus une causerie qu'un cours. Nous parlerons donc composites en général, et plus spécifiquement composites thermostructuraux. C'est une niche qui, à mon sens, illustre bien les enjeux stratégiques, les défis technologiques et les espoirs économiques. C'est une niche de haut de gamme où le monde entier reconnaît l'excellence française. Et vous l'avez déjà remarqué, nous disons composites, et non matériaux composites. Tant il est vrai que, plus que pour tout autre matériau, la conception du produit et l'élaboration et la formulation du matériau, la construction du produit et l'élaboration du matériau sont étroitement liés. Alors, composite, que veut dire ? Disparate, hétéroclite, composé, suggère le dictionnaire de base. Il n'a pas tort. Au-delà du mélange, au-delà de l'alliage dont on vous a parlé hier, il s'agit en effet de réunir des matières disparates, de les assembler selon des architectures hétéroclites et de les utiliser de façon judicieusement composée pour obtenir des propriétés, des produits et des services dont aucune des matières constitutives n'est capable, et qui vont au-delà des possibilités des matériaux les plus classiques. La combinaison gagnante consiste à faire vivre et travailler ensemble un renfort fibreux et un mélange matriciel combinant tenue mécanique et adéquation chimique. La nature nous en offre de nombreux exemples. La plupart des végétaux sont fibrés et beaucoup ont un comportement composite. Les arbres, tout particulièrement. Le bois étant un exemple achevé, de composites alliant dans des concepts optimisés une variété de textures et de matrices ligneuses destinées à résister ensemble aux agressions mécaniques et chimiques de l'environnement. Très tôt, l'homme a observé cela et cherché à en faire autant. Il a renforcé ces matériaux en y incorporant des fibres en vrac. Puis il les a armées en y intégrant des textures fibreuses organisées. Les premiers Égyptiens, vous le savez, mélangeaient paille et terre pour accroître la résistance de leurs briques. Le marché du torchis a été important et durable. Nos parents ont inventé le plastique armé, le béton armé. Et cependant, c'est la course à l'espace, l'effort consacré aux grands programmes balistiques et spatiaux, le besoin de constructions légères, résistantes et fiables, qui ont déclenché il y a environ 30 ans le réel progrès des composites. Rapidement relayée par l'aéronautique, cette démarche a provoqué l'apparition, dans les pays impliqués, d'une véritable industrie spécialisée, adossée à un important réseau scientifique et technologique. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? En bonne progression et en forte projection. La production 99 de fibres de carbone, dont nous reparlerons, dépassait les 40 000 tonnes, avec déjà une consommation équilibrée, 50-50, entre l'aérospace et les applications industrielles. Elle a doublé en 2 ans, et signe encourageant, le ratio aérospace sur industrie est passé de 2 à 1. L'Airbus A340, par exemple, est à 20% composite. Le Rafale, comme le F-22 américain, à 25% composite, pour seulement 10% au Mirage 2000 de la génération précédente. La faisabilité de voilures et de fuselages composites est désormais démontrée par les grands constructeurs Boeing, Airbus. Nicole Beauclerc en rencontre régulièrement dans Air et Cosmos, en soulignant fort bien les gains de masse spectaculaires obtenus, ainsi que les progrès effectués par les designers pour concevoir composites et offrir ainsi des architectures plus simples, plus robustes et moins coûteuses. Il est vrai qu'une bonne construction composite s'éloigne autant de la construction métallique que Notre-Dame de la Tour Eiffel. Mais venons-en au béaba du matériau composite. C'est donc un matériau constitué de phases physiquement distinctes, jouant le rôle de renfort et distribué dans une phase globalement continue appelée matrice. Les phases réparties peuvent être à base de particules, de whiskers, vous savez, ce sont des sortes de poils purs à hautes caractéristiques, de lamelles, de fibres courtes, ou mieux de fibres longues, plus ou moins organisées sous forme de textures. La propriété dominante de ces renforts est bien sûr leur grande résistance mécanique. Lorsque le matériau est soumis à une sollicitation, le renfort résiste et transmet une partie des contraintes à la matrice à laquelle il est lié. La matrice, qui en règle générale a été choisie plus souple que le renfort, se déforme, s'adapte, se relâche et elle répartit ses contraintes, ce qui soulage l'édifice et équilibre au mieux l'effort demandé à chaque partie du renfort. C'est un vrai travail d'équipe dont l'objectif est l'harmonie de sollicitation sur le renfort grâce au travail de répartiteur de la matrice. C'est un symbole de réussite du couplage de la résistance et de la souplesse, ou si vous le voulez, de la force et de la diplomatie. Renfort et matrice peuvent être chimiquement différents, chacun d'eux pouvant appartenir à la classe des polymères, des céramiques ou encore des métaux. Pour autant, bien sûr, que le couple soit compatible et que des réactions chimiques néfastes n'interviennent pas entre eux lors de l'élaboration ou de la vie en service du composite. Par tradition, on désigne un composite par 2 substantifs successifs, indiquant la nature du renfort, puis celle de la fibre, de la matrice. La nature du renfort, puis celle de la matrice. On dit ainsi verre-époxy, pour un composite à base de fibres de verre et de résine époxy polymérisée. De même, Kevlar époxy, carbone époxy. Lorsqu'on associe la fibre synthétique de Kevlar ou celle de carbone à une matrice époxy. Ce sont actuellement les meilleurs composites structuraux. Ils sont largement utilisés dans la construction des avions et des fusées, bien entendu, du fait de leur matrice polymère, leur tenue thermique est très médiocre. J'insiste, ce sont des composites structuraux. On les voit en haut et à votre gauche de ce diagramme qui représente la résistance spécifique des meilleurs matériaux en fonction de la plage de température d'utilisation. Citons aussi, c'est au centre, les composites céramique-métal, tout particulièrement ceux à fibres de carbure de silicium et à matrice titane. Ils sont mécaniquement prometteurs et se situent thermiquement dans la gamme des métaux. Et puis l'on parle de carbone-carbone, de carbone-céramique, de céramique-céramique. Lorsque l'on fait appel à des fibres de carbone ou de céramique, premier terme, et cette fois à des matrices carbone ou céramique, deuxième terme, eux sont capables de haute température. Ils sont bien sûr en rouge à votre droite. Nous entrons dans la niche des composites thermostructuraux, les vrais. Je vous propose de m'y suivre. Si vous en êtes d'accord, nous allons ensemble comprendre leur raison d'être, décrire leur mode d'élaboration, découvrir leur curieux comportement et mesurer leur potentialité technique. Et puis, pour finir, et à défaut d'aller cet après-midi dans des usines, nous prendrons connaissance de l'état de l'art industriel à partir de quelques photos. Rappelons d'abord les caractéristiques de base de la famille des céramiques. Données d'entrée, le point de fusion est élevé, supérieur à 2000 degrés. Il n'y a pas photo, les céramiques distancent largement les aciers et les titanes. Le carbone, lui, crève l'écran. Il se sublime vers 3600 degrés. Seul le tungstène peut lui être opposé, mais nous allons voir sa masse spécifique. Deuxième avantage, donc, la masse spécifique. La densité. Elle est faible. Inférieure à 4 pour l'alumine, à 3,5 pour le carbure de silicium, à 2 pour le carbone. À partir de cela, l'on devrait pouvoir construire chaud et léger. Et vous le savez, c'est le rêve pour tous les motoristes de l'air et de l'espace. Encore faut-il que les propriétés mécaniques soient au rendez-vous. Or, si la résistance mécanique des céramiques est bonne, leur capacité d'allongement est faible. Elles sont raides, 3 à 5 fois plus raides que les aciers. Pire, elles sont fragiles, elles tiennent mal au choc, elles cassent sans prévenir. C'est un handicap grave que tous nos ancêtres fabricants et utilisateurs de terre cuite, de faïence ou de porcelaine se sont acharnés depuis des millénaires à surmonter avec un succès relatif. C'est en fait un handicap rédhibitoire pour de très nombreuses applications. Alors comment faire ? Alors comment faire pour profiter des caractéristiques exceptionnelles des céramiques ? On a vu la tenue en température et la légèreté, mais aussi inertie thermique, inertie chimique, dureté, résistance à l'usure, à l'abrasion, eh bien, en les renforçant, en les armant par des textures fibreuses en céramique, en créant des composites à fibres et à matrices céramiques, des céramiques céramiques, des composites thermostructuraux. Est-ce facile ? Non, c'est très difficile. Alors, je reformule la raison d'être de ces composites. Pourquoi donc un concept de composite à base de fibres et de matrices en carbone ou céramique ? Pour répondre aux besoins de la mécanique thermique. D'abord pour tenir thermiquement, pour tenir à des températures supérieures à 1000 degrés. La plupart des composites et plus généralement les matériaux en sont incapables. Ensuite, pour répondre mécaniquement, mieux que les graphites et céramiques monolithiques, vulnérables aux chocs thermiques et mécaniques. Enfin, pour le faire plus légèrement que les métaux réfractaires, ce qui est d'autant plus aisé que la température est élevée, rappelons-nous le tungstène et sa masse spécifique de 19. La raison d'être du composite thermostructural, et parfaite. Armé et léger comme un composite, réfractaire comme un carbone ou une céramique, ce type de matériaux ne pouvait qu'être désiré et venir un jour. Les carbone-carbone sont apparus les premiers. C'était à la fin des années 60 aux États-Unis. Je me souviens encore du premier échantillon que j'eus la chance d'avoir en main. Sorte de gros dé de 2 cm de côté, polylustré comme il se doit pour un symposium, il a fait ma conquête tactile et mentale, définitive. C'est le besoin stratégique des missiles balistiques qui a présidé à la naissance et au développement des carbone-carbone. Les tuyères des moteurs, les cordes rentrées des missiles ont été leurs parrains et leurs marraines. Sur ces coupes de tuyères, vous voyez la différence d'architecture entre deuxième et troisième génération. Conçue en 1975, la deuxième génération en haut commençait à employer le carbone-carbone en rouge. Conçue 20 ans plus tard, la troisième en bas l'utilise pleinement. Elle est plus simple, 3 fois moins de pièces, 2 fois plus légère, avec à la clé fiabilité, performance et coût, 2 fois moins cher. Les carbone-carbone ont ainsi parfaitement répondu à l'attente des pionniers de la construction composite thermostructurale. Il est vrai que ce premier créneau se caractérise par une utilisation unique, one shot, de courte durée, quelques minutes, en atmosphère réductrice ou rare. En effet, le bonheur légitime des charbonniers fait notre malheur. Le carbone brûle, il s'oxyde lentement mais sûrement. Quel dommage que ce manque de tenue à l'oxydation du carbone. Autrement, le carbone-carbone eût été le composite thermostructural universel et nous aurions pu cesser nos recherches. À défaut, le carbure de silicium a été retenu pour son bon compromis, résistance mécanique, densité, tenue à l'oxydation. Et sur ce diagramme, vous voyez le domaine d'emploi des carbone-carbone en bleu, carbone, carbure de silicium en vert et carbure de silicium en rouge. Lisons-le par exemple à 1000 degrés. Le premier, le carbone-carbone, tient 1 heure maximum. Le second, 100 heures. Le troisième, plus de 10 000 heures. Le tout, bien sûr, en atmosphère oxydante. Et c'est en France, à Bordeaux, que les composites à matrice en carbure de silicium ont vu le jour au milieu des années 70. Ce sont les chercheurs de l'université du CNRS, travaillant déjà en étroite relation avec les industriels de la propulsion, qui les ont inventés. Depuis, de nombreux laboratoires ont étudié ces composites de par le monde. États-Unis, France, Japon, Allemagne. Notre pays demeure en excellente position et le professeur Roger Nalin, à l'origine de la découverte, et directeur actuel du laboratoire des composites thermostructuraux, est reconnu par ses collègues internationaux pour être la référence. The Academy of Ceramics lui a très justement décerné l'International Ceramics Prize du Millennium. C'est lui qui, sans conteste, aurait dû être aujourd'hui devant vous. Maintenant, si vous voulez approfondir, il enseigne à Bordeaux, et c'est trapu. Mais quelles sont donc les applications stratégiques qui tirent la technologie des céramiques céramiques ? Premier tracteur technologique, les moteurs aéronautiques, auxquels ils peuvent procurer à la fois un gain de consommation, une réduction des débits de refroidissement et un affaiblissement sonore, jouant ainsi sur les 3 tableaux, énergie, pollution et bruit. C'est essentiel, n'est-ce pas ? Voyez ici l'évolution en 30 ans de la température des turbines de moteurs d'avion construites en métal. Mon collègue hier en a parlé. La température de fonctionnement a été augmentée de 800 degrés. On a bien joué, c'est la courbe rouge. Pour seulement 100 degrés de progrès sur la tenue du métal, c'est la courbe jaune en bas. Les ingénieurs ont bien travaillé. Le refroidissement est intense. Mais quelle grande complexité géométrique et évidemment, quel manque d'efficience. On arrive à l'asymptote de la construction métallique. Second tracteur technologique, les futurs avions spatiaux, les véhicules spatiaux réutilisables, comme on dit désormais, qui tant pour leur carrosserie lors de la rentrée dans l'atmosphère, que pour leur moteur, bien sûr, ont un besoin absolu de construction thermostructurale. Très légère et cependant fiables et durables. C'est incontournable dans ce cas-là. Alors vous voyez ce bel oiseau X-33 américain, il devra subir 1500 degrés pendant une demi-heure à chaque rentrée dans l'atmosphère. C'est un gros travail de conception et de construction de carrosserie chaude qui est loin d'être achevé. Entre-temps, un marché volumique qui a vu le jour. Grâce à une vertu supplémentaire du carbone, son coefficient de frottement est non seulement bon, mais, fait exceptionnel, il s'améliore quand la température augmente. Le freinage carbone a supplanté le freinage métallique pour les avions militaires puis civils. Le carbone-carbone a apporté des gains significatifs en matière de masse, de performance, de sécurité et de maintenabilité. La production mondiale annuelle de disques en carbone dépasse déjà 1000 tonnes. Elle a pratiquement doublé en 4 ans et son avenir est d'autant plus prometteur que désormais, le carbone est économiquement compétitif pour ce type d'application. Ici, vous voyez l'évolution du prix et du tonnage de la production française. Aujourd'hui donc, et pour la première fois, je crois qu'on peut dire que la famille des composites thermostructuraux est à la fois tirée techniquement par des besoins stratégiques forts et soutenue économiquement par un marché commercial florissant. Il est clair que les conditions sont donc requises pour accroître l'effort de progrès en matière de céramique-céramique et pour, parallèlement, élargir le marché industriel des carbone-carbone. Alors voyons donc maintenant ensemble comment l'on fabrique un composite thermostructural et comment il fonctionne. Tout commence par des fibres longues de préférence. Sans elles, pas de texture et pas de composites thermostructuraux de haut de gamme. Les fibres de carbone sont réalisées à partir de différents précurseurs, mais le procédé de fabrication est essentiellement le même. Une fibre de polymère, rayon, polyacrylonitril, bray, est pyrolysée en atmosphère contrôlée et soumise à une tension pour augmenter sa résistance. Elle peut ensuite être traitée thermiquement jusqu'à 3000 degrés. On constate alors qu'elle est formée de longs faisceaux de plans graphitiques liés entre eux selon une structure cristalline en couches parallèles à l'axe de la fibre. C'est la raison pour laquelle les fibres de carbone sont tout particulièrement anisotropes. Les fibres de carbure de silicium, elles, sont obtenues à partir d'un polymère comme le polycarboxylane qui est fondu puis filé. Il est ensuite réticulé puis pyrolysé pour donner du carbure de silicium. Les fibres obtenues peuvent être utilisées dans l'air jusqu'à 1000 voire 1500 degrés alors que le carbone commence à s'oxyder, on l'a vu, à 500 degrés. Les fibres de carbone et de carbure de silicium offrent des capacités à rupture excellentes, respectivement de l'ordre de 5000 à 3000 mégapascal contre seulement 800 à l'acier. En revanche, elles sont fragiles. Elles rompent sous charge après une très faible déformation plastique, contrairement aux métaux qui sont en général très plastiques, assez plastiques. Ces fibres, dont le diamètre élémentaire est de l'ordre de 5 à 10 microns, sont présentées et vendues sous forme de câbles constitués de quelques milliers d'entre elles. Pendant longtemps, les câbles ont été de 1000 à 12 000 fibres. Aujourd'hui, la tendance est à l'augmentation du nombre de fibres, bien sûr, en vue de la réduction du coût. À partir de ces câbles et en fonction des pièces à produire, il convient ensuite de réaliser le renfort fibreux. Selon un modèle de texture résistant au champ de sollicitation mécanique prévu en service et de s'efforcer d'approcher le plus possible la forme finale de la pièce. On fabrique alors ce que l'on appelle une préforme en choisissant le procédé textile le mieux adapté. Selon le cas, on tisse, on tresse, on tricote, on croise, on bobine. Encore faut-il assurer la cohésion d'ensemble dans toutes les directions et éviter le risque majeur de délaminage entre couches non liées entre elles. Pour cela, on a longtemps retenu de tisser en trois dimensions sur des métiers complexes, ou encore d'entrecroiser selon quatre directions des baguettes pultrudées à partir de câbles. Quasi indispensables pour des pièces épaisses, très fortement sollicitées, ces constructions textiles demeurent évidemment onéreuses. Ici, un modèle de construction 4D, selon les quatre diagonales du cube, c'est un merveilleux brevet d'un ingénieur français, il a tenu très longtemps. Autre technique, la technique de l'aiguitage, qui permet de lier des couches entre elles par transfert de fibres dans l'épaisseur de la préforme à l'aide d'aiguilles à barbe. Elle est beaucoup plus industrielle. Elle s'est imposée dans de nombreux cas pour les préformes en câble de carbone, issues de l'industrie des non-tissés, des moquettes. Utilisant une planche de fakir munie d'hameçon, elle est de mise en œuvre simple et conduit à un carbone-carbone économique. Une autre méthode intéressante et prometteuse, la technique du tissage interloc, qui lie l'édifice par des câbles impliquant plusieurs couches. Elle est surtout pratiquée pour des textures céramiques qui supportent mal l'aiguitage. Comme vous le devinez, il y a eu prolifération de tentatives technologiques avec d'ailleurs effet de mode et querelle d'école. Le progrès de la prédiction du comportement des pièces en fonctionnement, qui permet une meilleure définition de la texture recherchée, ainsi que l'intérêt récemment manifesté par l'industrie textile pour des matériaux longtemps considérés par elle comme exotiques, ont apporté un souffle nouveau. Mon bon ami Jean Brochier, tisseur lyonnais de génie et pionnier des composites, disait souvent « Oh, moi, je croise les fils. » Désormais, Jean, de plus en plus, on place les fils. Voyons maintenant comment l'on fabrique les matrices. L'opération de dépôt d'une matrice dans une préforme, ou si vous le voulez, de remplissage de la préforme, est dans le jargon composite appelée « opération de densification ». Elle s'effectue par voie liquide, par voie gazeuse ou encore par une combinaison des deux. La densification par voie liquide consiste à imprégner la préforme fibreuse par un polymère à l'état fondu ou en solution, une résine phénolique, un brai pour le carbone ou encore le polycarboxylane pour le carbure de silicium. L'ensemble est ensuite pyrolysé. Le polymère se décompose, donnant de la céramique qui se dépose dans la préforme et des volatiles qui s'échappent en laissant des porosités. L'ébauche est alors soumise plusieurs fois au même cycle jusqu'à ce que les porosités soient suffisamment comblées et la densité désirée atteinte. La densification par voie gazeuse est la plus fréquemment utilisée. Dans ce cas, la préforme installée dans un four est chauffé à 1000 degrés environ, en présence d'un flux de précurseurs gazeux comme le méthane, le propane pour les matrices de carbone, le méthyltrichlorosilane pour les matrices carbure de silicium. Le gaz diffuse dans les porosités de la préforme, s'y décompose et dépose la matrice sur les fibres. C'est l'infiltration chimique en phase vapeur. La densification des composites thermostructuraux relève donc d'une industrie lourde, comparable à la sidérurgie, avec des fours à haute température, fonctionnant à faible pression et utilisant des espèces réactives qui demandent des précautions particulières d'hygiène et de sécurité. Les procédés de densification se caractérisent par des longs séjours dans les fours et la nécessité de fonctionner en feu continu. L'utilisation optimale de la main-d'œuvre suppose en conséquence l'installation d'unités dotées de nombreux fours qui sont chargés et déchargés successivement de leurs pièces. Bien que relativement lent, le procédé d'infiltration en phase gazeuse est un très bon procédé industriel. Il présente par rapport à d'autres plus rapides une grande souplesse d'utilisation, acceptant sans modification des installations ni outillage complexe, des pièces différentes en type et en nombre. C'est un procédé robuste et tolérant, à la fois bien adapté pour les prototypes de formes nouvelles et pour les grandes séries. C'est depuis 30 ans la voie royale. Penchons-nous maintenant sur la question clé, celle du comportement d'un composite à matrice céramique. Un comportement fort curieux qui est lié à l'existence même de ces composites. Parce qu'enfin, nous l'avons vu, la fibre céramique est fragile. Et la matrice céramique l'est tout autant. Or, l'objectif affiché, vous le voyez derrière moi, est bien sûr de disposer d'un composite thermostructural non fragile. Et souvenons-nous, le principe du composite passe par le rôle répartiteur de contraintes d'une matrice choisie plus souple, moins rigide que les fibres du renfort. Eh bien, pas de chance, la déformation à rupture des matrices céramiques aujourd'hui disponibles est inférieure à celle des fibres. Que faire en conséquence avec une matrice raide et fragile qui, lorsqu'elle cède brutalement, risque d'entraîner la fissuration des fibres, elle-même très fragile. Le talent des inventeurs a été de travailler à la liaison renfort-matrice, d'introduire à l'interface un troisième élément dont le rôle est primordial, baptisé interphase. Il s'agit d'implanter une sorte de fusible mécanique, d'adaptateur répartiteur de contraintes et de fissures, à défaut de disposer d'une matrice souple. Lorsque le composite est sollicité, les fissures qui se développent dans la matrice sont déviées et dispersées par l'interphase, évitant ainsi la rupture de la fibre qui peut continuer à jouer son rôle de renfort alors que la matrice poursuit sa fragmentation. Un effort scientifique important a été consacré à la compréhension et à l'optimisation du rôle de l'interphase dans la déviation d'une fissure. L'interphase doit adhérer fortement à la fibre pour que la fissuration se produise en son sein et non à la surface de la fibre. Elle doit être suffisamment résistante pour assurer le transfert de charge entre la matrice et la fibre, et suffisamment faible pour remplir sa fonction de fusible. Il a été montré qu'une interphase stratifiée améliore l'efficacité du composite en raison de la multiplication des chemins de déviation des fissures. La plus classique de ces interphases est constituée par des couches successives de pyrocarbone entourant les fibres. Mais, si le pyrocarbone est un excellent matériau d'interphase, il demeure sensible à l'oxydation, rappelons-nous, qui commence à 500 degrés. Pour éviter la disparition progressive du pyrocarbone, une interphase multicouche a été conçue de façon à apporter une capacité d'auto-cicatrisation. Elle combine des couches successives d'un matériau d'adaptation mécanique comme le pyrocarbone et d'un matériau formateur de verre comme le carbure de silicium. Le verre, formé à haute température, protège le pyrocarbone de l'oxydation. Le même principe a été retenu pour ensuite développer une matrice auto-cicatrisante qui contient des matériaux formateurs de verre fusibles. Ils piègent l'oxygène, diffusant dans les fissures avant que celui-ci n'atteigne l'interphase et la fibre et forme donc des verres fusibles qui bouchent les dites fissures. C'est en blanc sur l'écran. Le concept de céramique multicouche utilisé pour les interphases a été, vous le voyez, étendu aux matrices. Il accroît de manière très importante la zone de dispersion et de ramification des fissures, ce qui facilite le colmatage par ces agents de cicatrisation. Il est incontestable que ces interphases millefeuilles, que ces matrices zèbres constituent des avancées considérables pour l'obtention de céramiques aptes à fonctionner durablement en atmosphère oxydante. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Voyez cette splendide micro avec la fibre, l'interphase stratifiée et la matrice millefeuille. On s'y croirait. Et cela donne confiance. En tout cas, moi, ça me donne confiance. Mais comment vous faire apprécier de façon simple les résultats obtenus grâce à ces innovations, qu'il convient bien sûr de combiner avec les progrès significatifs enregistrés ces dernières années dans le domaine des fibres de carbure de silicium, particulièrement par nos amis japonais. Eh bien, par exemple en mesurant le chemin parcouru depuis la première génération. Alors, elle est en bleu sur cet écran. C'était celle du planeur spatial Hermès. Et ce, donc, à partir du critère essentiel qu'est la longévité potentielle d'une céramique soumise en atmosphère oxydante à des cycles de fatigue qui sont réellement, dans nos expériences, effrénés. La seconde génération en rouge incorpore le progrès effectué sur les interfaces et les matrices. La troisième en vert y ajoute le progrès sur les fibres et les textures. Dans ces conditions très dures, il est vrai, ce qui, vous le voyez, à 500 degrés ne tenait que 60 heures, approche les 1000 heures maintenant, grâce au progrès mécanique des fibres et interfaces, et surtout conserve cette longévité jusqu'à 1200 degrés. C'est le progrès anti-oxydation des interfaces et matrices qui apporte ce gain. Donnez-moi 300 degrés de plus, disait encore l'an dernier l'administrateur de la NASA, le célèbre Dan Goldin, dans un de ses discours magistraux. Eh bien, la profession progresse, monsieur l'administrateur. Elle devrait y arriver et être au rendez-vous stratégique des lanceurs réutilisables du siècle prochain. Bon, ben, je crois que vous savez tout, ou presque tout. Vous avez remarqué que les composites céramiques constituent une exception composite, qu'ils sont des composites inverses, comme dit le professeur Nalin, qu'ils sont en quelque sorte contre-nature. Vous savez aussi, vous avez aussi, je le pense, imaginé l'effort scientifique et technologique continu, colossal, et j'ose dire génial, qui a été accompli. Et vous avez compris combien cette niche industrielle qui combine les procédés extrapolés du textile, de la chimie, de la sidérurgie, de la mécanique, nécessite pour progresser non seulement l'excellence de chaque spécialité, mais une approche globale réellement pluriprofessionnelle. Il nous reste à prendre connaissance de l'état de l'art industriel. Je vous ai proposé de le faire en photo. J'en ai apporté une vingtaine, tirées, veuillez m'en excuser, de notre panoplie française. Vanité peut-être, mais en tout cas, autorisation de publication oblige. Si vous en êtes d'accord, nous allons les regarder ensemble avec de très courts arrêts sur image et je vais vous rejoindre pour les voir avec vous de manière à ce que nous puissions en parler rapidement. Alors, on va se mettre ici. Vous m'entendez toujours ? Eh bien, alors, nous allons aller à la première qui montre ici un moteur fusée à propergol solide ou, comme on dit, un propulseur à poudre. Alors, il est en coupe, après tir au banc, vous voyez, ça a bien fonctionné, ça a chauffé 3500 degrés pendant une minute et ça a poussé grâce à la grande tuyère au centre et en bas de la photo. Voilà la tuyère, c'est l'organe qui transforme l'énergie thermique apportée par le corps de propulseur où était la poudre qui a brûlé dans cette enceinte à haute pression et qui transforme cette énergie thermique en énergie cinétique, en énergie de poussée, faisant en sorte que le propulseur poussant par réaction, le véhicule grimpe le plus haut possible. La tuyère est tout en carbone-carbone, un divergent en 2D, deux directions. Vous voyez ici les tissus qui affleurent. C'était il y a 20 ans déjà. Deuxièmement, alors une loupe sur la partie immergée de la tuyère dans le corps du moteur. C'est un magnifique puits thermique en carbone-carbone 4D, vous voyez comme c'est beau, piece of art, totalement incassable, une fiabilité totale, il équipe tous nos moteurs de missiles stratégiques. Plus nouveau, meilleur et moins cher que le divergent à tissu, du carbone-carbone aiguité densifié gaz. Un grain fin qui fait merveille, à noter l'anneau de reprise d'effort, d'activation où s'accrochent les vérins, il est pris dans la masse et non pas rapporté. Toujours en aiguïté carbone-carbone, cette fois à la place du 4D que l'on a vu tout à l'heure, pour la partie immergée dans le corps du propulseur, c'est une pièce énorme, la plus grosse et la plus épaisse au monde. Il est destiné aux tuyères des gros boosters du lanceur Ariane 5. C'est la référence mondiale. 230 tonnes de gaz passent pendant 2 minutes, ils sont à 3000 degrés. Un autre divergent, le plus grand au monde cette fois-ci, mais mince, 3 mm d'épaisseur et léger, moins de 100 kg, 90 m-t-on dit. Il est réalisé à Bordeaux pour les moteurs de la fusée américaine Delta. À noter l'architecture en 3 pièces. Tassés au départ comme ceux d'un ver de campeur, ces anneaux se déploient en vol. Cela donne un gain de performance considérable. Le même pendant un tir au banc de simulation d'altitude à la NASA. Ça chauffe et ça marche. Il a volé avec succès en août dernier à partir de Cap Kennedy. Le même encore en cours de fabrication. On voit bien les anneaux. À ce jour, 70 jeux ont été commandés par nos amis américains. C'est une excellence française. Un atelier de densification de disques de carbone-carbone pour freins. Une production de 300 tonnes par an. À 3 kg le disque, cela fait 100 000 disques par an livrés en service opérationnel sur les Airbus, sur les Mirage, sur les Boeing. Voilà justement un rotor et un stator de frein Airbus. Vous voyez, concept dépouillé, robuste, léger, efficace. Le carbone apporte 500 kg d'allègement par avion, une distance d'arrêt réduite, une longévité accrue, une maintenance simplifiée, la performance globale dans toute sa splendeur. Ici, un jeu de disques et patins pour freins de véhicules terrestres. À noter la ventilation interne. On le voit mieux en bas ici, là, la ventilation interne grâce à des trous transverses. On les voit qui sortent ici. Pas de délaminage, grâce à la texture aiguïtée. Elle est née pour cet usage spécifique et on a vu qu'elle s'est généralisée depuis. Ah ben voici les mêmes freins en circuit de Formule 1. Et bien entendu, pour célébrer la victoire de Ferrari, en voici une. Regardez donc, rouge à l'avant, rouge à l'arrière, aussi rouge presque que la Ferrari elle-même. Tous les pilotes ont des freins en carbone-carbone. C'est indispensable pour gagner. Ah, voilà maintenant des tuyères de moteur d'avion, cette fois en carbone céramique. Ici, à l'arrière du Rafale et de ses deux moteurs M88, sous forme de volet manœuvrable. Première application de série pour un carbone céramique. Ça tient bien, mieux que prévu et plus longtemps. Et bien voilà la loupe sur un de ces volets. On note la liaison avec les ferrures métalliques. C'est une difficulté. C'est aussi un axe de progrès très important que ces liaisons métal-céramique. On y travaille beaucoup. Une vanne multifonction pour gaz à 2000 degrés. Les gaz sont vannés dans toute cette vanne multifonction. Une excellente démonstration de mécanique thermique en composite thermostructuraux. C'est une réussite d'architecture composite. Ici, un caisson carbone céramique réalisé il y a 10 ans pour Hermès. On approchait déjà l'objectif avec cependant un grand nombre de boulons métalliques. Ils sont désormais remplacés par des liaisons textiles. C'est une simplification évidemment essentielle. Ici, c'est un grand panneau en composite thermostructural réalisé par nos amis américains. Élégant et performant, il se doit d'être fiable et robuste. C'est un challenge pour les 4 ou 5 centres d'excellence en compétition dans le monde. Ici, vous voyez un bord d'attaque pour avion spatial. On devine les liaisons textiles entre coque et nervure. Le rêve pourrait peut-être devenir réalité. Et voici du concret. Une installation pour traitement thermique de pignons métalliques qu'on voit en haut. Le composite thermostructural offre un remplissage meilleur du four. Les plateaux sont minces et une longévité qui est fortement accrue et qui est reproductible. La demande industrielle devient forte. Encore une application industrielle, un gros ventilateur pour installation en milieu hostile. Chaud, agressif, mêmes avantages de légèreté et de longévité. On y ajoute l'inertie chimique des céramiques céramiques. Ici, et vous voyez le monsieur qui est ici, un revêtement de réacteur de fusion nucléaire. Stable au flux de neutrons, conducteur, résistant, le carbure de silicium s'affirme comme très bien adapté. Voici une nouvelle application stratégique pour les composites thermostructuraux. Voici donc un rapide aperçu de l'état de l'art. Je pense qu'il illustre bien les domaines dans lesquels les composites thermostructuraux se sont déjà implantés. La niche est bien sûr encore étroite et de gros progrès doivent être accomplis pour mieux répondre aux besoins de la mécanique thermique et plus généralement de la construction soumise à des environnements sévères. Des progrès dans deux directions principales, que sont la prédiction de vie en service et la réduction du coût de possession. Je me tiens à votre disposition pour dialoguer avec vous de la démarche entreprise pour mener ces actions de progrès. Elles sont intenses et nous parlerons également de leur dynamique envisageable. Aujourd'hui, il est clair que le coût des composites thermostructuraux constitue souvent un obstacle à l'extension du marché au-delà de la niche stratégique où ils se sont imposés. C'est pour cela que des efforts importants ciblés sur l'aspect économique sont effectués aux États-Unis au titre des programmes qui en ont Low Cost Ceramic Composite ou bien Affordable Composite Program ou encore Continuous Fiber Ceramic Composite, tous sponsorisés par des agences gouvernementales. Par exemple, l'objectif du programme du DOE, le département de l'énergie, qui associe industriels et universitaires, est de développer des composites économiques destinés à réduire la consommation énergétique et la pollution. On l'a vu, en effet, les composites thermostructuraux, grâce à leur meilleure tenue en température, permettent de moins refroidir les turbines et, ce faisant, conduisent à des cycles thermiques plus efficients en matière de consommation en carburant et en matière de pollution. L'enjeu est énorme, si l'on en croit les Américains. Les gains annuels escomptés à l'issue de ces programmes sont à l'horizon 2010, et pour les seuls États-Unis, de 630 milliards de kilowattheures d'économie d'énergie. C'est la consommation annuelle de l'Île-de-France, soit 8 milliards de dollars. C'est le budget français de la recherche. Une réduction des oxydes d'azote d'environ 1 million de tonnes et une réduction du dioxyde de carbone de 120 millions de tonnes, c'est ce que dégage annuellement l'Île-de-France. C'est impressionnant, n'est-ce pas? En attendant, et donc à titre de conclusion, retenons, si vous le voulez, que la niche des composites thermostructuraux est stratégiquement essentielle et industriellement prometteuse. Elle constitue un atout technologique fort de notre pays dans la compétition et la coopération internationale qui, progressivement, font et feront que la mécanique thermique soit encore plus performante, plus sûre, plus durable, moins polluante, moins sonore et globalement moins coûteuse. Je vous remercie de votre attention.
Je voulais vous demander deux questions, vous poser deux questions. D'une part, est-ce qu'on a la maîtrise totale, une fois tous les tests remplis, est-ce qu'il n'y a pas des imprévus ? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas des limites ? Par exemple, pour les tirs d'Ariane, il y a eu des très rares échecs, mais qui existent. Est-ce qu'ils ont été dus ou non aux matériaux que vous avez évoqués ? Deuxième question, au sujet des progrès. Est-ce que c'est votre clientèle qui commande les cahiers des charges, enfin qui vous donne ses souhaits du point de vue des cahiers des charges, ou au contraire, est-ce que c'est vous qui réalisez dans vos ateliers, qui réalisez des qualités, et ensuite vous proposez à votre clientèle ces qualités?
Eh bien, merci, ce sont d'excellentes questions qui peuvent d'ailleurs se généraliser et qui ne sont pas spécialement dirigées vers les composites thermostructuraux. Je vous répondrai donc comme un motoriste que je suis d'abord et qui naturellement, jouant avec le feu, n'est-ce pas, demande à être très prudent. Je suis encore en vie, voyez-vous, après 42 ans de propulsion, ce qui prouve que l'on a à la fois apporté performance et fiabilité. Ben, je vais commencer par vous répondre au sujet de la première question, c'est-à-dire les risques du métier. Non, alors premièrement, les échecs d'Ariane que nous avons connus il y a une quinzaine d'années, notamment sur le moteur d'étage supérieur, n'étaient pas du tout liés en relation avec ces matériaux. À cette époque, et encore maintenant, Ariane et les moteurs d'Ariane sont très largement fabriqués en matériaux métalliques. C'était des questions d'allumage, de combustion, et non pas du tout de matériaux. Mais je préfère alors vous répondre de la manière suivante. Eh bien, écoutez, il y a une quarantaine d'années, nous faisions nos moteurs à poudre, vous les avez vus tout à l'heure, 90% avec du métal, 10% avec du composite. Aujourd'hui, la génération intermédiaire a fait à peu près 50-50, et aujourd'hui, nous sommes à l'inverse, 90% composite, 10% métal. Nous avons eu de graves difficultés dans le passé. On peut dire que c'est à cause de notre incompétence, ça peut être à cause du métal. Aujourd'hui, je note que depuis 25 ans, nous n'avons pas, et je touche du bois, eu d'échecs de propulsion à poudre en France. Nous apparaissons comme des magiciens aux États-Unis, alors que, on l'a vu, les composites thermostructuraux ont envahi ces moteurs. Sur la deuxième question, d'où vient le progrès ? Il vient de partout. Il vient en particulier des professeurs, des chercheurs, qui nous offrent des idées nouvelles. Ils viennent de nos collègues qui, quelquefois, sont un peu avant nous. Ils viennent de nos ingénieurs, de notre imagination, de notre réflexion, l'induction et la déduction se combinant. Ils viennent aussi de nos clients qui demandent toujours mieux, toujours plus et toujours moins cher. Et c'est leur rôle. Ce sont des bons acheteurs. Le cahier des charges. Eh bien, et là vous touchez un point essentiel important pour la France. Nous faisons beaucoup de recherches. Notre recherche est excellente. Notre industrie est bonne. Et pourtant, nous disons, trop peu de résultats de recherche se traduisent en innovation industrielle. J'en profite puisque vous m'avez tendu, parce que je prêche aussi dans ce domaine, dans d'autres circonstances. J'en profite pour vous dire notre lacune française est le fait qu'entre la recherche et l'industrie, l'effort de technologie, l'effort de transformation des graines qui sortent de la recherche, ce ne sont pas des fruits, ce sont des graines. L'effort de transformation en technologie mature, démontrée et utilisable dans des développements industriels est insuffisant, terriblement insuffisant. Nous avons une excellente organisation de la recherche spatiale, de la recherche en général. Nous avons une très bonne implantation industrielle. Où sont nos technologues ? Quels sont les efforts technologiques ? Quels sont les budgets ? Vous avez vu que dans un certain domaine, comme les composites thermostructuraux, où un effort technologique a été fait, la France est en bonne position. Nous disons à tous, à l'opinion publique, aux ministres et à toute la France, renforçons notre effort technologique. Ça a été le génie japonais, et croyez-moi, les Américains aujourd'hui mettent de l'effort en crédit et en talent sur l'effort technologique qui sépare le résultat de la recherche et la réussite industrielle. Il y va dans nos domaines des moteurs, de l'aéronautique, de l'espace, de durée de quelque chose, 5 à 10 ans, pour transformer un résultat de recherche en possibilité de développement réel. Je suis allé un petit peu loin dans ma réponse, mais vous m'avez tendu la perche, merci.
Monsieur, au centre, là.
Pourriez-vous nous dire quels sont les matériaux qui ont été utilisés pour fabriquer l'avion furtif?
Pour l'avion, Bon, alors, je ne le pourrais pas pour deux raisons. Je ne suis pas américain, et si je savais quelque chose, je serais tenu au secret. Cependant, notons donc qu'il s'agit d'un avion. Notons donc qu'il reste dans les airs et ne, pour l'instant, ne part pas dans l'espace. Il n'a donc pas à souffrir de haute température. C'est donc un avion qui, pour l'essentiel, est réalisé en composites structuraux, c'est-à-dire en fibres de carbone et en matrice résine. J'en avais parlé au début de cette petite présentation. Bien sûr, ce sont des résines qui doivent quand même être capable de 300, 250, 300 degrés, des polyimides en général. En fait, ce qui est apporté pour être alors discret, furtif, ce sont des matériaux complémentaires qui sont intégrés dans les résines ou déposés en surface. Ces produits sont à base de métaux ou de métalloïdes particuliers. Le CEA est plus expert que moi en la matière. Nous avons pas mal de travaux sur le Rafale, par exemple, dans ce domaine. Lorsqu'il s'agit de composites thermostructuraux, on peut vouloir également de la discrétion. La température à laquelle... Les températures auxquelles sont soumis portés ces matériaux font que la plupart du temps, les produits qui apportent la discrétion sont détruits par la haute température. Il n'en reste pas moins que nous travaillons dans ce domaine. Merci, mais c'est tout ce que je vous en dirai aujourd'hui.
Monsieur.
Deux petites questions à vous poser. La première concerne l'assemblage de ces grandes structures en composite thermostructuraux. Est-ce qu'on favorise plus le riftage ou le collage, parce que en métallurgie, on a développé une technique qui s'appelle le SPFDB pour limiter le riftage. Dans les composites à matrice thermodurcissable ou thermoplastique, c'est le collage qu'on favorise. Donc ma question pour les composites céramiques, est-ce qu'on utilise un riftage ou un collage, et quel matériau on utilise pour le riftage? Et ma deuxième question, c'est le phénomène de l'ablation laser. Dans la retrait spatiale, quel composite, plus précisément, on utilise pour lutter contre ce phénomène de la volatilisation en surface?
Bien. Sur le premier, vous touchez un des points majeurs de la construction composite, c'est l'assemblage. Alors, en construction métallique, on a beaucoup travaillé, il y a des standards, nos ancêtres ont bien fait, et Gustave Eiffel a montré qu'on pouvait faire des choses excellentes. En composites structuraux, qui ne sont pas portés à haute température, le collage s'est quasiment généralisé. Collage par des films de colle mince que l'on place entre deux parties de composite, plus ou moins d'ailleurs polymérisées, et l'on cuit ceci sous pression, les collages sont devenus excellents. Je me souviens encore de l'époque où nos amis de Dassault réalisaient leurs avions à l'aide de collages et de riftage. La ceinture et les bretelles, il le fallait à cette époque. Désormais, les collages l'emportent. En ce qui concerne les composites thermostructuraux, il n'est pas possible d'utiliser des colles. Les colles, à ces températures de 1000 à 3000 degrés, disparaisse. Nous devons donc mettre au travail pour soi faire des assemblages mécaniques traditionnels. Nous faisons des boulons, des écrous, des rivets en céramique ou en carbone. C'est toujours possible. Les assemblages mécaniques sont toujours possibles. Moins il y en a, mieux ça se passe. Je vous ai montré combien la conception composite avait pour objectif d'aller vers des formes simples, un nombre de pièces extrêmement réduit. Bien entendu, il s'agit de mettre ces liaisons aux endroits les moins exposés, soit au plan mécanique, soit au plan thermique. Juste un record en passant. La première génération de nos propulseurs dont je parlais tout à l'heure et qui était en métal à 90%, pour faire un propulseur, il fallait un millier de pièces environ. Aujourd'hui, pour le même genre de propulseur, avec les mêmes fonctions, et là où l'on a 90% de composites, nous sommes en dessous de 100 pièces. Nous avons réduit de près de 10 le nombre de pièces, donc le nombre d'assemblages. Alors quand même, il reste des assemblages. Tous ne peuvent pas être mécaniques. Alors que fait-on? Eh bien, nous faisons des assemblages matériaux entre carbone et carbone, carbone et céramique, et de plus en plus céramique et métal. Des sortes de brasages, j'ose pas dire soudage. Nous avons à travailler. Il y a vraisemblablement encore une dizaine, quinzaine d'années de travail dans ce domaine pour arriver réellement à maîtriser tout ceci d'une manière élégante, mais dès maintenant, ceci se fait. Ajoutons le fait que la plupart du temps, mais là je commence à aller vers un peu de secret industriel, nous aidons ces assemblages, collages, enfin assemblages par brasage, si vous voulez, par des liaisons textiles. Imaginez entre deux pièces que nous puissions faire en sorte que certains bouts de fibres de textile pénètrent de l'un vers l'autre. Voici donc le moins d'assemblage possible, avec l'ambition d'aller vers des assemblages céramique-métal. Ça existe dans l'industrie, en particulier dans le domaine de l'électronique. Là, il s'agit de grands ensembles et soumis à de très hautes températures et à des travaux de compression, traction et déplacement importants. En ce qui concerne l'ablation lors de la rentrée, tout simplement, eh bien, ce sont ces carbones céramiques ou céramique-céramique qui permettent de tenir à l'ablation. Lorsque l'on avait des matériaux à base de résine polymérisée, de texture fibreuse et de résine polymérisée, comme la navette spatiale avec ses tuiles, n'est-ce pas? La navette spatiale avec ses tuiles s'ablate, s'érode, s'ablate. Les tuiles sont épaisses et progressivement elles se réduisent en épaisseur. Et puis un jour on les change. À noter qu'elles sont collées sur la structure résistante, et vous savez que de temps en temps, eh bien, ma foi, bon, il en manque une. Globalement, ils ont fait un excellent travail, mais à chaque fois, et je les vois régulièrement, inspecter leur navette spatiale, vérifier la qualité du collage, vérifier que l'ablation n'est pas trop importante, en, dans le doute, en changer une, deux, trois, avec les assemblages qui doivent être précis, de manière à ce que, à la prochaine rentrée, aucune défaillance n'intervienne. Désormais, à l'aide des composites thermostructuraux, l'ablation sera quasiment nulle et les véhicules seront réutilisables. Ces avions spatiaux feront comme l'Airbus, ou en tout cas comme le Mirage, n'est-ce pas, comme le Rafale, d'aller et de revenir instantanément, quasiment. J'arrive aujourd'hui et j'emporte mon satellite demain. Le rêve, peut-être, Dan Goldin y compte, nous y travaillons tous et ensemble. Je pense que ces avions spatiaux du futur seront réalisés en international et tout particulièrement en coopération transatlantique.
Monsieur, allez-y.
Oui, puisque c'est l'ère des Bordeaux blancs, je pense à votre professeur Tournesol. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ma question, c'est vous qui l'avez évoquée. Il semble que sa formule soit un peu magique. Vous parlez de composite inverse, si j'ai bien entendu. Donc je voulais savoir seulement ce que c'était.
Oui. Bon, ben, d'abord, c'est un professeur qui n'est pas du tout Tournesol. c'est un professeur qui s'approche réellement de cette notion de technologue dont je parlais tout à l'heure. Tiens, j'en profite au fait. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants et qu'ils soient très bons à l'école, les premiers de classe, n'est-ce pas ? Dites-leur donc, mon cher, la profession de demain, chéri. Fais technologue. Alors, technologue, professeur technologue, voyez-vous, et non pas professeur tournesol. C'est un professeur qui rapidement s'est rendu compte, avec nous, que pour que le résultat d'une recherche ait quelque intérêt, il y avait lieu qu'elle ait quelque application possible. Et ensemble, nous avons bâti ce qui est rare en France, rare dans le monde. C'est un laboratoire mixte. Le laboratoire des composites thermostructuraux à Bordeaux est détenu à 50% par le CNRS et l'Université de Bordeaux. 50%. 25-25. 50% par le monde universitaire, le monde de la recherche. Et à 50% par des industriels. Nous sommes deux, SNECMA et le CEA. Et ceci depuis 12 ans. Il y a 70 chercheurs qui travaillent ensemble, quelle que soit leur provenance. Ils s'y disent heureux, ils font de la recherche de base qui est, d'après les instances officielles du CNRS et de l'université, reconnue comme à très haut niveau. Vous avez vu que l'international salue cet effort et ce travail. Et nous, industriels, nous disons que c'est un excellent travail qui mène naturellement à la technologie permettant de transformer des résultats de science en réalité. Alors maintenant, pourquoi sont-ils inverses ? Eh bien, nous le sommes dit, n'est-ce pas ? Les composites normaux ont une matrice souple qui répartit les contraintes, qui facilite tout, et le renfort se porte bien. Ici, nous avons une matrice avec les composites thermostructuraux qui est rigide, encore plus rigide que les fibres. Alors il faut donc le professeur technologue qui nous permette de surmonter cette chose qui aurait dû faire que les composites thermostructuraux n'arrivent jamais. Bien sûr, si vous me demandez, faites-vous des efforts pour assouplir la matrice ? Oh bien sûr, on en est encore loin de compte, mais le travail sur la nanomatière et en particulier ces fameux nanotubes qui aujourd'hui nous apporte un espoir nouveau, pourrait peut-être amener cet assouplissement de la matrice, peut-être pas pour en faire des composites totalement normaux, mais pour éviter qu'ils soient totalement inverses.
Merci. Dernière question.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je pense, j'ai deux petites questions. D'abord, je pense qu'économiquement, vous pourriez en faire un débouché impeccable pour, par exemple, je pense tout de suite aux gilets pare-balles. Je ne sais pas si on peut les faire en de tels composites.
Les gilets pare-balles.
Les gilets pare-balles. On pourrait en équiper les soldats. Bonjour. Et ma deuxième question est plus pointue. Quid d'un assemblage chimique ? Par exemple, la médecine, pour aussi intervenir au niveau de l'informatique, pour pouvoir faire des réparations et tout comme ça. Merci.
Oui. Bon, bah alors, en ce qui concerne le premier point, il est évident que les céramiques sont connues comme excellentes pour les blindages. C'est pas nouveau. On en fabrique. Et on en fabrique avec des céramiques monolithiques. Alors on prend des petits carreaux de céramique que l'on colle sur, par exemple, une structure souple, du Kevlar, par exemple, et l'on fait aussi des sortes de zèbres en céramique qui permettent de dissiper l'énergie. Vous avez compris, dans ce que je vous ai dit, qu'il y a de nombreux mécanismes de dissipation d'énergie qui sont organisés de manière à ce que les fissures puissent être acceptées accepté, soit acceptable, sans pour autant que le matériau n'ait de problème. Alors maintenant, quand un choc venant d'une balle, que ça soit une charge creuse ou autre chose, entre dans une céramique, nous avons ces phénomènes de dissipation d'énergie. Et si vous me posez la question, est-ce que les composites thermostructuraux, et particulièrement les céramiques, c'est-à-dire des céramiques armées, ne se présenteraient pas mieux que des céramiques monolithiques qui ont donc une propension à se casser, mais bien sûr. Et si vous me demandez si nous travaillons sur les blindages, mais bien sûr. Et si vous me demandez pourquoi je ne l'ai pas montré, c'est parce que ce n'est pas encore tout à fait au niveau technique et économique valable. Pour les gilets pare-balles, bon, sauf à tirer à charge creuse, c'est peut-être pas indispensable. La céramique, sans plaisanter, a un avantage essentiel. C'est que quand vous tirez, quand vous mettez deux impacts proches l'un de l'autre à quelques fractions de seconde d'intervalle, mais proches l'un de l'autre, eh bien, ma foi, la céramique accepte le premier impact sans se briser. Alors que la céramique traditionnelle ne l'accepte pas, ce qui veut dire que si vous tirez quasiment au même endroit, eh bien, le deuxième shot peut être le bon ou le mauvais, selon que vous êtes d'un côté ou de l'autre. En ce qui concerne l'aspect médecine, informatique, c'est-à-dire des débouchés dans d'autres domaines, eh bien, j'en parlais l'autre jour avec le professeur Sedel, qui est venu vous parler de biomatériaux. Nous avons travaillé avec lui et avec d'autres chirurgiens pour des implants médicaux, pour des prothèses osseuses. Nous avons fait, par exemple, en carbone-carbone, nous avons fait des prothèses en carbone, des prothèses de hanche. J'ai même vu, de mes yeux vus, n'est-ce pas, c'était un mouton, qui à Marseille vivait avec un cœur en carbone-carbone. Il était en très bonne forme, il m'a confié qu'il n'avait aucun problème. Simplement, le petit moteur électrique qu'il fallait mettre pour que tout fonctionne bien était vraiment très gros et on ne pouvait vraiment pas le mettre dans le mouton, alors que c'était un cœur rotatif en carbone-carbone. C'est le professeur Montiez qui avait voulu faire ça, et je lui avais fait le carbone-carbone qui allait, très compatible avec l'intérieur que je ne connais pas très bien, n'est-ce pas, sauf qu'il n'est pas à haute température. C'était un cœur rotatif. Ouais, ça fait quelque chose quand vous mettez l'oreille sur la poitrine de quelqu'un qui a un cœur rotatif, n'est-ce pas, hein? Bon, ça fait quelque chose, c'est différent. Alors maintenant, l'électronique, mais bien sûr aussi l'électronique. Et en matière d'électronique, vous savez qu'on utilise beaucoup les céramiques dès que la température, lorsque l'électronique est portée à une certaine température. Est-ce que ces composites renforcés, ces composites thermostructuraux peuvent avoir des applications? Oui, à condition, bien entendu, qu'au plan économique, l'on fasse un certain gap. Vous avez vu tout à l'heure, du point de vue économique, comment le carbone-carbone pour les freins, les disques de frein d'avion, a chuté. Il a chuté d'une part parce que des innovations technologiques ont été faites, en particulier l'aiguitage, mais aussi parce que le volume a cru. Or, ce sont des productions du style sidérurgique qui, donc, comme pour les aciers, ont besoin de larges volumes pour amener à une économie réelle. Les matériels investis, les équipements, les investissements à consentir sont lourds, et pour réussir économiquement, il faut donc que l'on puisse avoir une large production. Dès maintenant, nous avons trois usines pour fabriquer ces carbone-carbone et céramique, d'usines françaises. L'une est implantée à Bordeaux, l'autre a été implantée à Lyon, et nous venons d'en implanter une aux États-Unis pour répondre mieux au marché américain.
Bien, merci beaucoup. Merci.